LSD, la série documentaire, un podcast France Culture.
Il y a une ligne jaune matérialisée au sol. Vous mettez les surchausses avant de passer la ligne et au retour, les surchausses ne passent pas du tout la ligne.
LSD, tous en selle, une série documentaire d'Élodie Maillot, réalisée par Véronique Samouloff.
Alors là, vous allez rentrer dans la salle où on a notre biobanque. C'est un énorme congélateur qui fait à peu près 8 mètres sur 4. On peut conserver jusqu'à 600 000 échantillons.
Épisode 1, géographies intimes de nos microbes.
Donc là, on fait du séquençage massif d'ADN extrait de cellules humaines pour caractériser complètement le microbe intestinal.
Moi, je suis un peu émue parce que comme je participe au projet French Gut, je me dis qu'un jour, ou peut-être même déjà, j'ai un petit bout de mes selles qui est dedans.
Oui, elles auraient normalement fini dans les toilettes et dans les circuits d'élimination des déchets urbains. Vous avez été volontaire pour donner un échantillon pour le French Gut et du coup, on a effectivement ici une archive de tous nos volontaires. Pour l'instant, quelques milliers et dans l'avenir, jusqu'à 100 000 individus.
Avec votre aide, nous pouvons réaliser des avancées significatives dans la science du microbiote pour améliorer la qualité de vie du plus grand nombre. Faisons la différence. Faites partie des volontaires Le French Gut.
Il y a quelques mois, j'ai entendu parler d'un projet étrange. Ça s'appelle le French Guts, littéralement les tripes françaises, menées par l'INRAE et la PHP. Leur but, c'est d'échantillonner, de biobanquer et de cartographier d'ici 2027 ce que les Français ont dans le ventre et surtout ce que leurs micro-organismes racontent de nos identités bleu-blanc-rouge et des maladies chroniques qu'on peut développer en France. Alors, j'ai décidé de remplir un immense questionnaire et j'ai pu intégrer le projet French Guts. J'ai reçu un kit de collecte de sel et mes fécès, ça c'est le mot savant latin pour dire matière fécale, mes fécès sont donc désormais conservés dans cet immense coffre-fort à Jouy-en-Josas, à l'INRAE, l'Institut National de la Recherche pour l'Agriculture, l'Alimentation et l'Environnement français. Ma petite contribution à l'avenir de l'humanité repose donc désormais dans un immeuble gris au milieu de la forêt. Un petit poids de matière fécale et 1000 milliards de mes bactéries scannées, lisées, analysées, séquencées et rangées au milieu de 600 000 autres échantillons. Mon microbiote dans un tube identifié par un code-barre anonymisé. Mais comment mes excréments racontent-ils mon identité tricolore, mon histoire, mes tripes hors de France et toutes ces années de vie, de géographies intimes, de cantines, de fromages, de baguettes et de milliers de repas ainsi encapsulés dans un tube transparent à bouchon rouge. Dans des émissions précédentes, je me suis souvent intéressée aux univers méconnus ou invisibles de nos sociétés et à ce qu'ils peuvent agiter de nos imaginaires ou dire de nos identités d'aujourd'hui en mutation. Mais là, j'ai décidé de plonger au sens propre au cœur de nous-mêmes, de ce qui nous est invisible, c'est-à-dire dans notre flore intestinale, pour voir ce qu'elle dit de nos identités. On appelle ça le microbiote. On dit le microbiote ou le microbio. Mais en gros, il s'agit des milliards de micro-organismes en nos entrailles qui sont essentiels à notre survie et qui sont uniques à chaque individu. Depuis un peu moins de 15 ans, on est capable de séquencer l'ADN de tous ces micro-organismes. On peut donc lire l'ensemble du matériel génétique des espèces qui vivent en nous. La génomique nous révèle que nos bactéries sont plus nombreuses que les étoiles dans le ciel. Une biodiversité invisible dont l'ADN se retrouve dans notre caca. Ça paraît fou.
Alors on dit parfois qu'il y a autant de diversité attendue dans un microbiote intestinal qu'on a d'étoiles dans l'univers. Donc, on regarde le ciel, on voit de ces tout petits points.
Joël Doré, directeur de recherche à l'INRAE.
On n'a pas la possibilité de voir tous les microbes dans nos intestins, mais c'est une richesse et une diversité vertigineuse. Et nous, notre vision, c'est que dans les intestins, on a effectivement une multitude de micro-organismes différents qui interagissent entre eux et qui interagissent avec le système qui les entoure, donc c'est d'abord et avant tout la paroi intestinale, une monocouche de cellules humaines en fait, et puis ensuite tout l'organisme humain. Et donc on est, nous humains, fondamentalement microbiens. Cette prise de conscience, elle doit forcément s'accompagner d'attitudes, de choix, de mode de vie, de comportements alimentaires aussi, qui vont être bénéfiques et pour nos cellules et nos tissus humains, et pour nos microbes.
Notre monde visible ne serait-il alors que l'écume d'interactions microbiennes ? Notre identité serait-elle donc plus complexe, pas uniquement limitée au champ de la génétique, qui nous définit comme descendants de X ou Y ? Nous ne sommes donc pas seulement français, chinois ou anglais, mais avant tout microbiens. C'est ça que racontent nos French guts, nos tripes, les micro-organismes de nos entrailles. Ça voudrait donc dire que notre identité n'est plus une essence, mais bien une histoire en mouvement qui raconte comment l'on vit, ce que l'on mange, et surtout les microbes que l'on rencontre, ceux dont on hérite et que l'on transmet aussi. On n'est donc jamais seul, comme l'a écrit Marc-André Selosse. Il est professeur au Muséum National d'Histoire Naturelle et son labo est situé au cœur d'un des plus grands carrefours de biodiversité et de microbes de Paris, au Jardin des Plantes.
Et on arrive donc à l'Herbier, c'est ce grand bâtiment des années 30, là, où sont toutes les collections de plantes, d'algues et de champignons. Et mon bureau, il est dans la colonne de gauche, là, dans le pavillon terminal.
Et est-ce qu'ici, Marc-André, dans le Jardin des Plantes, il y a, je ne sais pas, des statues, des plaques, des choses qui rendent hommage à tous ceux qui ont permis de voir les bactéries ? L'inventeur du microscope, Pasteur, je ne sais pas. Est-ce qu'il y a...
Et il faut bien dire que l'histoire de la recherche sur les microbes s'est greffée tardivement sur le muséum. Et ça nous raconte la dure émergence du monde microbien. N'étant pas visible, évidemment, il a mis du temps à rentrer dans la science et aujourd'hui, il met encore du temps à rentrer dans notre conception du monde puisqu'on reste scotché sur la maladie qui est certes souvent microbienne et on oublie complètement que la santé est aussi microbienne. Vous voyez, quand on s'est demandé pourquoi on est malade, on trouve des microbes, ok. Mais si maintenant on se demande pourquoi on est en bonne santé, on trouve aussi des microbes, parce qu'il y en a partout.
Alors Marc-André Selosse, nous sommes ici au Muséum d'Histoire Naturelle de Paris. Vous êtes professeur ici et vous enseignez donc à Paris, mais aussi à Gdansk, en Pologne et en Chine. J'avais envie de commencer cet entretien en vous demandant comment ça va. Est-ce que cette question, c'est quelque chose de très culturel et qui va renvoyer peut-être à l'objet de notre émission au microbiote ? Qu'est-ce que ça veut dire quand on dit ça en français ?
Ben ça, c'est dérive du latin « comment allez-vous à la selle » en fait. Ce qui veut dire, est-ce que vous faites caca sans disconfort ? Est-ce que votre tube digestif va bien ? Parce qu'on sort quand même de longues époques où notre tube digestif vivait des temps troublés. On attrapait souvent des maladies, on avait souvent des diarrhées, on pouvait mourir de dysenterie. Donc, comment ça va ? C'est comment allez-vous à la selle ? Et ça reflète le fait que on avait bien besoin de microbes pour nous protéger parce que notre tube digestif fait la convoitise d'un certain nombre de microbes qui s'y multiplient en semant le désordre. Et en fait, si ce n'est que rarement le cas, c'est parce que nous avons un bon microbiote, c'est-à-dire que nous avons ordinairement une grande diversité de bactéries et de levures qui habitent notre tube digestif et qui le rendent infréquentable, incolonisable par les maladies, par les agents infectieux. Nous avons autant d'habitants que de cellules en nous. Alors ça fluctue d'ailleurs, parce que sans se complaire dans la défécation, quand vous allez à la selle, précisément, vous expulsez un certain nombre de ces habitants, et pour un temps, peut-être que vous avez plus de cellules humaines que de cellules microbiennes en vous. Mais elles prolifèrent bien plus vite que vos propres cellules, et très rapidement on se retrouve à cette égalité numérique. Donc on est vraiment dans un zoo extraordinairement divers, et ce que cache le nombre de cellules, qui est le même que le nombre de cellules humaines, c'est un nombre d'espèces bien supérieur à l'unique espèce qui est l'hôte de toute cette ménagerie.
C'est-à-dire l'être humain.
Bien supérieur à nous, oui. Nous sommes hommes et nous abritons un zoo microbien.
Alors, un microbe, d'abord, qui a inventé ce mot microbe ? Ce mot microbe, il a été inventé par un chirurgien français du temps de Pasteur. Et il a utilisé le mot microbe pour définir un tout petit peu ces agents infectieux qui étaient responsables des maladies sur lesquelles travaillaient Pasteur en France, Robert Koch en Allemagne et leurs collègues.
Pascal Cossard, professeur à l'Institut Pasteur et à l'Académie des sciences.
Donc le mot microbe a une connotation, en tout cas en français, il a une connotation qui est assez négative. Mmh. Donc j'aime mieux le mot micro-organisme parce qu'il part plus de quelque chose qui peut être soit bénéfique, soit maléfique, on va dire. Donc moi j'aime bien définir un microbe, ou plutôt un micro-organisme, comme un agent vivant qui peut se nourrir, qui peut grandir, grossir, se diviser et donner une nouvelle génération. Alors un microbiote, c'est une assemblée, c'est un ensemble de microbes. Et en général, un microbiote, c'est fait de différents micro-organismes. Et ça contient des bactéries, ça contient des amibes, ça contient des protozoaires, ça contient même des virus. Ça peut contenir des virus de bactéries.
J'aime bien ce terme d'assemblée. On imagine tous les microbes en nous qui seraient assis autour d'une table avec un marteau, quelqu'un qui déciderait de l'ordre du jour. Est-ce que ça se passe comme ça, Pascal Cossard ?
Ah, mais vous dites une chose qui est tout à fait importante, c'est que les microbes communiquent entre eux. Donc ils communiquent entre eux en s'envoyant des petits signaux chimiques. Ils sont toujours en train de manger. Et donc ils mangent et en même temps ils sécrètent des composés. Et ces composés donnés sont reconnus par les microbes de la même espèce. Et quelquefois, en ayant reconnu ce signal, ils agissent ensemble pour faire quelque chose. Ce n'est pas un langage avec des lettres, c'est un langage avec des molécules chimiques.
Mais ça leur permet d'agir.
Ça leur permet d'agir. Mais c'est... d'un autre côté, il n'y a pas de son. J'ai jamais entendu dire que les bactéries envoyaient des sons. Jusqu'à nouvel ordre. Hein, jusqu'à nouvel ordre.
Bien sûr, ils nous aident à digérer parce qu'ils sont dans le tube digestif et qu'ils émettent des enzymes qui attaquent les aliments. Ils influent sur notre humeur, notamment certains lactobacilles influent sur notre résistance au stress.
C'est une bactérie, lactobacillus.
Exactement, c'est un lactobacille qu'on a ou qu'on n'a pas dans le tube digestif. On a aussi des preuves qu'ils régulent le développement du système nerveux et que d'ailleurs, les troubles de l'autisme sont en partie liés à un microbiote incomplet qui n'envoie pas les bons messages pour le développement du système nerveux. On a en fait même des choses comme la cicatrisation, parce que les microbes, notamment un certain nombre de streptocoques, les bactéries qui colonisent notre peau, dialoguent avec le système immunitaire et améliorent la vitesse de cicatrisation par leur dialogue avec le système immunitaire, par les molécules qu'ils émettent. En fait, toutes nos fonctions, on peut les accomplir sans microbes, mais on ne les accomplit pas bien. On n'est pas en bonne santé, en fait, si on n'a pas les microbes avec nous.
Et Marc-André Sellos, qu'est-ce qui fait qu'on s'intéresse aux microbiotes aujourd'hui, plus que jamais ? Qu'est-ce qui fait que l'être humain a regardé le ciel, les planètes, depuis très longtemps, mais que cet invisible, ces bactéries qui sont en nous, ne nous apparaissent que très récemment ?
Alors, je ne résiste pas. Je vous lis un extrait du Sermon sur la mort de Bossuet, qui nous dit « Parmi ces vastes désirs d'enrichir notre entendement par des connaissances nouvelles, la même chose nous arrive qu'à ceux qui, jetant bien loin leur regard, ne remarquent pas les objets qui les environnent. Je veux dire que notre esprit, s'étendant par de grands efforts sur des choses fort éloignées, passe cependant si légèrement sur ce qui se présente à lui de plus près, que nous consommons toute notre vie toujours ignorants de ce qui nous touche. Et non seulement de ce qui nous touche, mais encore de ce que nous sommes. » Cette phrase, elle est absolument somptueuse. D'abord, la langue est belle, mais surtout, ça nous dit que souvent, on a l'œil accroché par des choses lointaines et on a des curiosités qui nous éloignent de notre quotidien, des questions bassement quotidiennes. Et finalement, ces microbes, comme ils étaient petits, leur rôle devait être petit. Ça, c'est une grosse erreur en biologie. Hein. La taille ne compte pas. Et donc, ils sont loin d'être des passagers sans intérêt, ils sont une partie de nous-mêmes.
Moi, j'ai 40 années d'expérience sur le microbiote comme objet de recherche. Je me suis même demandé pourquoi j'avais choisi de travailler sur, ce qui commence par M en fait, hein, pour faire ma carrière. C'était un choix particulier quand même à l'époque, c'était effectivement plutôt exotique. Il y avait assez peu de gens qui travaillaient sur le microbiote intestinal. C'était très très rare en fait, hein, de dire voilà, moi mon objet de recherche c'est les cellules humaines. Et je veux comprendre comment ça fonctionne.
Parce que ce qu'il faut dire, c'est que pour lire le microbiote, il faut mettre les mains dans la merde.
Alors bah oui, nous, notre échantillon qui arrive, c'est d'abord et avant tout des selles humaines, parce qu'on peut avoir accès à l'échantillon de selles sans que ce soit invasif, donc sans qu'on ait besoin de rentrer à l'intérieur avec des grosses aiguilles. Et donc, bah oui, ça a été notre outil principal, en fait, hein, effectivement. Donc bon, voilà, c'était... Un choix, mais aucun regret pour ce qui me concerne.
Si on retrace un tout petit peu l'historique de l'intérêt que les chercheurs, les biologistes et les médecins ont pu avoir pour tout ce qui se passe à l'intérieur de nous, vous diriez que ça commence quand ? Est-ce que ça commence avec l'invention du microscope, avec Antoine Leeuwenhoek ?
Leeuwenhoek, en fait, il a développé un outil qui est plus basé sur de la physique, en fait. Il avait des plaques avec une micro-perforation qui lui permettait de visualiser ce qu'il appelait des animalcules à l'époque, et donc ces tout petits micro-organismes.
Van Leeuwenhoek ? Anton Van Leeuwenhoek. Il était marchand de tissus. Il recevait des fils qui venaient de je ne sais où, d'Inde ou de... Et je crois que c'était assez classique de regarder la texture de ces tissus avec des lentilles. Donc vous avez la lumière focale qui arrive, et puis vous regardez et vous voyez un peu mieux. Un jour, il a été regarder une goutte de sa mare, de la mare de son jardin. Et il a vu qu'il y avait des choses qui bougeaient. Il a appelé ça des animalcules et tout ça. Puis un jour, il a pris aussi un peu de son sperme. Il a regardé, il a vu des spermatozoïdes. Et il a envoyé ses résultats à la Royal Society aussi. Et après, il y a eu quand même un arrêt pendant longtemps, hein, d'amélioration des microscopes, en fait. Il n'y a pas eu un continuum.
C'est bien avant l'ère pasteurienne où on a commencé à développer les outils pour mettre en culture les microbes, et où s'est aussi développé beaucoup la reconnaissance du microbe pathogène, en voyant vraiment les microbes comme quelque chose de méchant, d'agresseur, de nocif, et contre quoi il fallait lutter absolument. Et je pense qu'encore aujourd'hui, la vision qu'on a des microbes en général est un petit peu influencé par cette période-là.
Pensez que dans les cantines, on rince les légumes et les salades à l'eau de Javel diluée pour que ce soit plus simple. C'est quelque chose qui s'est plus ou moins développé comme une habitude des cuisiniers de collectivité, et c'est un non-sens chimique et c'est un non-sens microbiologique. Il faut distinguer propreté versus saleté d'un côté qui est culturel et hygiène qui est biologique. À l'époque de Versailles, où on chie dans les escaliers et où on se lave pas beaucoup, clairement, on n'est pas forcément tellement choqué par ça. On raconte souvent l'histoire de cette vieille aristocrate qui, redécouvrant lors de la restauration Versailles, mais dans un 19e siècle un tout petit peu plus hygiéniste déjà, dit « Oh là là, il n'y a plus l'odeur d'antan !» L'odeur de merde et de pisse. Bon, à Versailles, les codes de propreté sont en dessous de ce qu'on peut attendre pour une hygiène qui est donc le référentiel absolu en termes de santé et de biologie de l'homme. Mais maintenant, aujourd'hui, nos codes de propreté surpassent largement l'exigence pour l'hygiène, parce qu'ils commencent à affecter le microbiote. Nous vivons dans un environnement trop nettoyé, parfois avec des nettoyants bactéricides, ce qui est un non-sens. Nous vivons aussi avec des aliments que nous cuisons tous, que nous pelons tous, que nous désinfectons excessivement, ce qui est un non-sens. Il vaut mieux frotter et laisser quelques microbes là-dessus. Personne n'est mort de manger un peu de terre. Hein. Personne. Donc aujourd'hui, on est très très propre. Ça, c'est culturellement ce qui est attendu, mais c'est trop propre par rapport à l'hygiène.
C'est-à-dire, on sait qu'un microbiote n'est pas une assemblée de bactéries qui vivent ensemble et qui sont très contentes de vivre ensemble. C'est quand même struggle for life, hein, le combat pour la vie. Il y en a qui vont manger plus vite que les autres, il y en a qui vont faire que certaines bactéries vont moins bien profiter de ce qui vient d'arriver. Ça, c'est, bon, disons, c'est une sorte de compétition. Il y a un renouvellement permanent. Il ne faut pas penser microbiote comme quelque chose de statique. C'est quelque chose qui bouge. Il y a beaucoup de facteurs qui font que ça évolue. Et nous-mêmes, nous avons un microbiote qui évolue.
Vous ramenez les jambes bien vers vous, d'accord ? Vous prenez une grande inspiration, vous bloquez en apnée et vous poussez fort en bas. Le ventre monte vers le plafond. OK ? Allez, on y va. Vous bloquez et vous poussez de tout votre force. Voilà, ça c'est génial. Encore, tenez-vous.
Alors, comment a évolué mon microbiote Frenchy ? Et est-ce que mes bactéries racontent vraiment ma trajectoire et mon histoire ? En fait, tout aurait commencé à l'aube de ma vie, comme pour vous, quand je suis arrivée sur Terre en héritant du microbiote de ma mère, qui elle-même en avait hérité en partie de sa propre mère, à qui sa mère l'avait transmis, et ainsi de suite, tout ça, loin de Paris et de la maternité de la salpêtrière, dans un pays où moi, je n'ai jamais mis les pieds. Et pourtant, je porte sûrement en moi des microbes lointains de ces lignées de grand-mères en fichu qui ont poussé leur premier cri en naissant à la maison, sur un sol en terre battue, où elles ont reçu leur premier shoot microbien, loin des péridurales et des gants en latex de l'équipe du professeur Jacqueline Izard à la maternité de la Salpêtrière.
Soufflez quand vous en pouvez plus.
Super.
Respirez. On reprend de l'air et on y retourne quand vous voulez.
Au moment de la naissance, dans ce phénomène qui va permettre à ce bébé d'accéder à l'air libre, à sa vie extra-utérine, il va franchir plusieurs étapes. Et en franchissant ces étapes, il va avaler tout ce qu'il y a au passage. Mais c'est normal, parce que même in utero, même dans l'utérus, les bébés avalent. Ils avalent leur liquide amniotique. Quand ils descendent dans la filière génitale, ils vont avaler ce qu'il va y avoir sur le passage. Tout ce que contient cette zone, le vagin et le périnée, qui sont des germes à la fois de la flore vaginale, mais également de la flore digestive. Parce que l'anatomie féminine fait que le vagin, c'est juste à côté de l'anus, et qu'il y a une flore qui est mixte, qui est à la fois vaginale et digestive. Donc en naissant, il va avaler des grandes gorgées de bactéries de la flore vaginale de sa mère et de la flore digestive de sa mère. Voilà, ça, c'est le cocktail de bienvenue. Ce qui va initier, amorcer la diversité de sa flore digestive. Ça, c'est le début de la vie. Et on sait qu'il y a une différence dans la qualité du microbiote, dans la diversité du microbiote entre les enfants nés par césarienne programmée et les enfants nés par les voies naturelles, par les voies vaginales. Donc on sait qu'il y a une différence puisqu'ils amorcent leur diversité microbiote de manière totalement différente. Maintenant, ça ne s'arrête pas là, il y a la vie après.
Il
y a plein de choses qui vont influencer le microbiote, la diversité du microbiote d'un nouveau-né, d'un enfant et éventuellement d'un adolescent et d'un adulte. La vie ne s'arrête pas à comment on est né.
Mais du coup, vous lui prenez le bain maintenant ?
Non, on va pas lui donner le bain le premier jour. Ce matin, généralement, on attend au moins qu'il ait 24 heures de vie, je pense. Et il a besoin d'avoir cette odeur de toute façon contre lui parce que ça le rassure pendant 9 mois, il a baigné là-dedans. Donc si on lui enlève, c'est quand même pas l'idéal. Et ça permet de constituer tout son microbiote derrière l'intestinal, etc. Donc c'est que des bonnes choses pour lui. Il faut lui laisser. D'accord ? Donc on va lui laisser absorber tout ça.
Dès que ce bébé il est posé sur le ventre de sa mère, il va être mis au sein ou pas, mais la mère va lui faire un bisou. Et tout ça, c'est de la transmission, c'est des bisous magiques. Parce qu'on va leur donner comme ça une partie des germes qui nous couvrent, nous sommes couverts de germes. Ce n'est pas exactement les mêmes germes toute la vie, mais c'est le début, c'est l'amorce.
C'est quoi cette bouche là que tu as ?
Bouche à bisous, hein ?
Ah, ok. Les actes faisaient 53.
Donc, l'arrivée au monde, c'est un choc naturellement pour le nouveau-né. Mais le premier choc, c'est que automatiquement, ce nouveau-né-là va être colonisé par des milliers de bactéries. Et tout au cours de sa vie, la flore bactérienne va être amenée à se transformer jusqu'à la mort, et même post-mortem.
François-Joseph Lapointe.
Le deuxième moment où le bébé va recevoir des bactéries, c'est au moment de l'allaitement. Donc, il y a plein de textes qui nous parlent du lait, des propriétés magiques. J'étais à Bethléem il y a quelques années et il y a une grotte du lait où, semble-t-il, Marie aurait allaité Jésus pour la première fois et les pèlerins viennent prier devant cette Vierge allaitante. Les gens récoltent aussi, en grattant le mur, des artefacts. Donc, c'est un peu de la poudre comme si c'était de la craie ou du calcaire. Et même les boutiques à la sortie de la grotte de la Vierge vendent ça. Et ce que j'ai voulu faire, c'est de télescoper ces croyances médiévales-là avec la génomique actuelle. Donc, on connaît maintenant les bactéries qu'on a dans le lait maternel, on connaît leurs fonctions, on connaît les qualités nutritives du lait, on connaît l'importance du microbiote pour l'immunité du nourrisson. Donc, je considère que je suis bio-artiste, c'est-à-dire que j'utilise, dans le cadre de ma pratique artistique, le vivant comme matériau. Et donc, j'ai réalisé une œuvre qui est en fait une sculpture, si on veut, une installation artistique qui s'inspire des vierges allaitantes du Moyen Âge, pour lequel on attribuait une vertu magique, voire mystique, à ce premier lait qui avait été offert par la Sainte Vierge à son enfant, en me disant, ben, aujourd'hui, on le sait qu'est-ce qu'il y a dans ce lait-là, et ce ne sont donc plus des vertus magiques, ce sont des vertus immunologiques qui sont associées aux bactéries que j'identifie, que je représente dans le cadre de mon travail. Comme vous le savez, toutes les espèces de bactéries ont un nom latin. Staphylococcus, Mycelaginosa, Pseudomonas, Viridiflava, Acitenobacter johnsoni, Pantoea. Cette œuvre en trois mouvements a été enregistrée par une chorale professionnelle à Montréal qui permet donc d'envelopper cette œuvre des bactéries qu'on trouve dans le lait maternel.
Pourquoi maintenant on parle du microbiote quand on n'en parlait jamais? On n'en parlait jamais parce qu'on n'était pas capable de le définir. Et on n'est pas capable de le définir parce qu'on n'avait pas les outils. Et quels sont ces outils? Premièrement, ce sont les microscopes. Mais j'ai envie de dire que ce n'est pas tout à fait uniquement ça. C'est surtout le fait qu'on est capable de faire de la métagénomique. Alors c'est un mot un peu compliqué, mais c'est relativement simple, c'est-à-dire que la métagénomique, c'est une technique qui vous permet de comprendre ce qu'il y a à l'intérieur de tous ces microbes. Et vous n'êtes pas obligé de les isoler un à la fois, vous les prenez tous ensemble, en gros vous les faites éclater, vous prenez leur ADN, vous mettez ça dans une machine qui va dire « Ah ben voilà, vous avez ça dans ce microbiote ». Ça, c'est une révolution. C'est une révolution parce qu'il y a 15 ans, on n'était pas capable vraiment de le faire. Alors maintenant, il y a une composante dont on n'a pas parlé, c'est le prix. Parce qu'avant, séquencer un génome, ça coûtait très cher. Et maintenant, ça coûte beaucoup moins cher. En l'an 2000, ça coûtait, on avait eu, dans le cadre d'un consortium européen, on avait eu 2 millions d'euros pour séquencer le génome d'une seule bactérie. Maintenant, ça coûte 700 euros ou 500 euros, ça dépend les endroits. Donc, c'est presque plus rien, quoi.
Oui, donc c'est vertigineux, c'est vraiment une révolution.
Ah non, mais là, on est dans une révolution complète. Et là, on séquence on fait de la métagénomique sur différentes choses, etc. Mais bientôt, on fera de la génomique dans les laboratoires d'analyse. Hein. Vous allez faire votre, disons, prélèvement fécal et on pourra faire de la génomique là-dessus. C'est sûr que ça va exister.
Ça, c'est sûr que c'est pour demain.
Bah, pour demain, disons, d'ici 5 ans.
Je peux vous serrer la main?
Absolument.
Est-ce qu'on échange des microbes?
Comme on se parle, on échange des microbes. Vous avez maintenant les microbes de très grande qualité.
Ah bon?
Oui, vous avez les miennes.
C'est vrai, mais comment vous pouvez dire que vos microbes sont de meilleure qualité?
Les microbes nous aident à la recherche de bonheur. Je pense que je m'accomplis assez dans ça. Le bien-être d'un scientifique qui a fait des choses qui avait peut-être un impact sur la vie de tout et chacun.
Si Stanislav Duszko-Erlich est aujourd'hui un actif retraité heureux, avec qui j'ai envie d'échanger des microbes, c'est peut-être parce qu'on lui doit une révolution scientifique. Parce que c'est un peu grâce à lui que l'on vit aujourd'hui la démocratisation de ce qu'on appelle la métagénomique, qui a permis l'explosion des études actuelles sur le microbiote. En 2008, Duszko-Erlich a coordonné le premier grand projet Metait qui a permis de décrypter le métagénome intestinal humain en séquençant le génome de toutes les bactéries du corps humain en collaboration avec des scientifiques du monde entier. Et ces découvertes ont permis de forger le concept de nouvel organe pour qualifier le microbiote intestinal.
Il y avait un très large consensus qu'il fallait le faire, que c'est le moment de le faire, qu'on pouvait le faire et qu'on va le faire.
Parce que ça concernait en fait le genre humain en général.
Ça concernait le genre humain, mais quand vous regardez la panoplie des gens qui étaient autour de la table, les académiques, les médecins, les industriels et les agences de financement, c'est quand même un panel très très large pour explorer le métagénome humain.
Des bactéries.
Des bactéries. Et on a pu démarrer en 2008. C'était une très grande révolution. On s'est rendu compte c'est que les bactéries, collectivement, portaient 3 millions de gènes. Tandis que nous, les humains, nos gènes, il y en a 23 000. Pour vous donner une comparaison, la taille d'un humain comparée à la taille de la tour Eiffel, 100 fois plus, d'accord? Quelle surprise! Ces pauvres petites bactéries, si simples, la vie inférieure, qui collectivement porte beaucoup plus d'informations génétiques que nous. Donc c'était quand même absolument formidable.
Comment est-ce que vous pouvez voir ces bactéries invisibles? Qu'est-ce que vous analysez? C'est quoi votre matière première?
On récolte un microchouille de sel humain, on extrait l'ADN de ce sel, on utilise le séquençage d'ADN pour savoir tout ce qu'il y a dedans. Après, on compare les séquences qu'on a produites de vous, de moi, de tout individu, on les compare avec une grande base de données qui répertorie les espèces bactériennes qu'on a déjà trouvées chez l'homme.
Dans les selles.
Dans les selles. Oui. Les fesses humains. Fesses, les selles, la merde, shit en anglais. Dans le jargon scientifique, on se veut poli. Donc, des matières fécales. Caca, si vous voulez.
Oui.
Quand on parle entre nous, ton caca n'est pas super bien. C'était cette découverte que la grande proportion de la population vivant dans les pays industrialisés a perdu une partie de la richesse microbienne intestinale, ce qui aboutissait à un risque accru de développer des maladies chroniques de type diabète, problèmes de foie, certains cancers, maladies cardiovasculaires. Totalement inattendu. Imaginez-vous que l'analyse de vos selles, de votre caca, révèle que vous avez perdu une partie de votre richesse microbienne.
Est-ce qu'on pourrait dire que ce qui arrive aujourd'hui à nos microbiotes, c'est un peu comme la fonte des glaces au pôle. C'est imperceptible, alors, c'est invisible.
On sait qu'on perd énormément de biodiversité, des insectes, des poissons, des oiseaux, des mammifères. C'est visible et indiscutable. Et l'analogie qu'on peut faire, c'est que dans le même temps, on a une sixième extinction invisible, qui est celle de nos microbiotes intestinaux. Et elle a probablement opéré depuis seulement trois générations, en fait. Depuis seulement l'après-guerre, qui est une époque à laquelle on a fait des choix assez drastiques. Donc on a changé tout ce qui entoure la naissance. Aujourd'hui, On est dans des conditions qui sont très, très propres et quelquefois complètement stériles, en fait. Donc, l'exposition au monde microbien met beaucoup plus de temps à s'opérer. On a aussi beaucoup de traitements antibiotiques qui, y compris dans la période précoce, sont administrés. Et ça va agir sur la mise en place du microbiote à une période assez cruciale. On a changé nos habitudes alimentaires. On a beaucoup moins de végétal dans l'alimentation que ce qu'il y avait il y a 50 ou 100 ans. Et donc, on a des chasseurs-cueilleurs en Afrique, où on a des tribus indigènes en Amazonie, par exemple, qui ont été aussi étudiées de la même façon, qui ont été caractérisées et comparées à des populations occidentales. Quand on a fait ces comparaisons de façon systématique, on a pu documenter que les populations occidentales ont potentiellement perdu 50% de la richesse et de la diversité du microbiote intestinal. Wow.
J'ai vécu la plus grande partie de ma vie en France. Et comme plus de la moitié de l'humanité d'ici quelques décennies, je vis en ville. Mon ADN de bobo parisienne m'a convaincue de faire un compost chez moi. Mais en vérité, je ne brasse pas souvent de microbes et je mange rarement ce que j'ai fait tomber par terre. Bref, j'imagine que je suis moi aussi une occidentale qui a perdu de sa richesse bactérienne. Alors, j'ai eu envie de comparer mon microbiote urbain à celui de chasseurs-cueilleurs qui ont des vies bien différentes de la mienne. Et c'est comme ça que je suis entrée en contact avec Mathilde Poyer. Mathilde est française et chercheuse. Elle est partie travailler dans les labos du prestigieux MIT, le Massachusetts Institute of Technology, à Boston. Et c'est à elle et à son équipe que l'on doit la création du Global Microbiome Conservancy. Ça, c'est un vaste projet qui vise à collecter et à analyser les microbiotes des populations humaines à travers le monde entier. Aujourd'hui, Mathilde a installé son labo et son équipe à Kiel, en Allemagne, et elle a accepté de séquencer l'ADN de mes bactéries pour la comparer avec celle d'un chasseur-cueilleur tanzanien. Alors, j'ai mis mes selles dans un pot et je lui ai envoyé par la poste en Allemagne.
Ça, c'est pour la
valeur.
Oui, ça a de la valeur. Vous avez là plutôt une petite boîte, non ? J'ai peur que ça se casse. Non, je crois que je vais garder ma boîte.
Ouais, c'est mieux de mettre la boîte et qu'on mette la boîte.
Et 2 mois plus tard, je suis allée rencontrer Mathilde à Kiel. Je m'attendais à arriver devant un bunker sécurisé qui recèle les données cruciales de l'avenir de l'humanité et de nos bactéries. Et en réalité, j'ai retrouvé Mathilde devant un grand immeuble gris, à côté d'un hôpital, qui ne disait rien des technologies de pointe qu'on trouve à l'intérieur.
Voilà. Donc ici, c'est la salle vraiment de biologie moléculaire. Donc c'est ici qu'on fait les extractions d'ADN, la préparation des échantillons pour le séquençage, voilà, ce genre de travaux. Qu'est-ce donc que c'est la biologie à l'échelle des molécules, donc c'est vraiment à l'échelle de l'ADN, quoi, en quelque sorte. Donc c'est ici qu'on fait c'est ça, l'extraction de l'ADN de nos échantillons. Voilà, donc c'est tout ce qui a trait à l'ADN, en quelque sorte. C'est le plus petit niveau de la biologie.
Mais donc Mathilde, si on fait le trajet d'un échantillon, ouais, par exemple de mon échantillon, il arrive ici, vous ouvrez l'enveloppe, il passe dans les mains de laborantin ou laborantine, mm-hmm, dans des hôtes. Ensuite, il va passer dans différentes centrifugeuses et liseuses.
La première chose à faire, ça va être de nettoyer l'échantillon. Donc avec des étapes de centrifugation, réhomogénéisation dans un autre liquide qui est plus adapté à l'extraction d'ADN. Ensuite, on va extraire l'ADN. Donc pour extraire l'ADN, on va d'abord détruire les cellules bactériennes et libérer l'ADN. On va ensuite nettoyer cet ADN, c'est-à-dire qu'on va enlever de l'échantillon tous les débris des parois des cellules. On travaille vraiment avec des tubes à essai qui ont l'air de contenir uniquement de l'eau. Voilà, donc c'est parfois 3 jours de travail avec des tubes qui n'ont l'air de contenir que de l'eau. Donc c'est parfois stressant de se dire qu'il faut attendre le tout dernier moment avant de savoir si effectivement il y avait bien quelque chose au départ. La plupart du temps, on ne voit pas l'ADN. Voilà. Il faut vraiment que ce soit en très très grosse quantité pour voir de l'ADN. Et dans ce cas, on verrait une masse un petit peu opaque, blanche, un petit peu gélatineuse. Mais il faut vraiment que ce soit en très très grosse quantité. Nous, ça ne nous arrive jamais ici. On ne voit pas l'ADN.
Donc là, Mathilde, on est dans votre bureau. Alors, il y a des cartons. Il y a un arc musical à votre droite.
C'est un vrai arc qui arrive de Tanzanie. Donc c'était un chasseur Hadza et qui m'a offert cet arc. Voilà. Il y a d'autres cadeaux dans la salle. Il y a les flèches qui vont avec, là, d'ailleurs.
Avec des plumes d'oiseaux.
Ouais. On a des petites choses qui viennent du Rwanda, là-bas. On a, je ne sais pas comment ça s'appelle, c'est aussi une arme de chasse, ça. On souffle dedans, ça envoie des fléchettes, ça arrive de Malaisie.
Des fléchettes empoisonnées ?
Des fléchettes empoisonnées, oui. Pareil, un participant qui m'avait offert ça à la fin de notre déplacement dans son village.
À côté du bateau, il y a
à côté du bateau, il y a un emoji caca en vitrail que ma belle-sœur a fait pour moi parce qu'elle est vitrailliste et que je travaille sur le caca et que ça la faisait rire. Donc c'est assez à l'image du travail qu'on fait ici. C'est à la fois de la recherche sur le microbiote, mais aussi un gros mélange de cultures. Et donc l'objectif qu'on a via cette initiative, qui est donc à but non lucratif, c'est de collecter, préserver, caractériser et partager avec l'ensemble de la communauté scientifique les microbiomes intestinaux des populations humaines à travers le monde. La recherche sur microbiote a commencé donc en Europe, aux États-Unis. Quand on s'est rendu compte que ça allait créer des gros problèmes d'un point de vue éthique, vraiment, que la recherche sur le microbiome se fasse toujours sur les mêmes populations humaines, c'est là, que, donc en 2015-2016, que l'on a fondé le Global Microbiome Conservancy. C'est là que ça a commencé vraiment. Et on commençait à se douter que la diversité microbienne dans les intestins était en fait bien plus diverse que celle qu'on connaissait dans les intestins des individus qu'on avait l'habitude d'utiliser pour faire nos recherches.
Donc, c'est-à-dire ouais. Des blancs.
Donc en fait des blancs, des blancs de pays riches. Il y a beaucoup d'études qui cherchent à développer des médicaments pour soigner certaines maladies associées au microbiote. Et toutes ces études se font en utilisant les données que l'on génère à partir des microbiotes de ces populations les plus riches qui vivent en milieu urbain dans les pays industrialisés. C'est là qu'on a généré le plus de données jusqu'à présent. Donc ça, c'est la chambre anaérobie qui nous permet, comme dans un vaisseau spatial un petit peu, de faire le vide. On essaye de recréer l'environnement donc en termes de gaz, ce qui peut se passer dans un intestin humain ou dans un côlon humain. Donc effectivement, il y a de l'hydrogène, mais surtout, il n'y a pas d'oxygène. Là, on est à 1 ppm. En comparaison, à l'extérieur, là, dans l'air, on est à peu près à 200 000. Quoi. Donc il n'y a pas d'oxygène dans la chambre. Je vais aller venir étaler ma colonie bactérienne sur cette nouvelle boîte de pétri. Donc c'est chaque petit point rond là est une colonie bactérienne. Ça forme un dessin qui est propre à l'espèce bactérienne. Chaque point est une colonie. Là en fait on ne voit pas des bactéries, on voit des colonies de bactéries. Voilà, avec des milliers de clones de la même bactérie. Voilà. J'essaie de vous en montrer une très différente. Ah, celle-ci est très différente quand même. Ça fait comme une espèce de fleur. J'aime beaucoup Turicibacter. On la voit pas très très souvent. Elle me fait penser à une grosse pizza. Ça fait pas un rond très très propre. Et puis il y a un petit peu comme s'il y avait des petits morceaux de pepperoni, de champignons. Ça fait vraiment beaucoup de petits reliefs sur la colonie. Donc elle m'amuse bien celle-là.
C'est-à-dire que chaque colonie de bactéries fait en quelque sorte des petits dessins en grandissant. Ouais,
voilà, c'est ça. La morphologie de la colonie, c'est exactement ça. Ça forme un dessin qui est propre à l'espèce bactérienne.
Est-ce qu'on pourrait dire que les bactéries sont soit des artistes, soit qu'elles ont un langage et qu'elles voudraient peut-être nous dire quelque chose ?
Alors je dirais ni l'un ni l'autre. Je dirais que c'est un petit peu comme les fleurs poussent aussi de telle ou telle manière. Mais effectivement, parfois, ça peut être très très joli.
Quand on se balade dans le labo de l'équipe de Mathilde à Kiel, on croise des colonies de bactéries en fleurs ou en pizza, des roses, des blanchâtres ou des marrons, isolés et domptés par des doctorants du monde entier qui tractent le fameux gène 16S, le gène qui est commun à toutes les bactéries que l'équipe de Mathilde a récolté à travers le monde, parfois dans des zones non électrifiées. Elle a donc précieusement recueilli des selles humaines, plongées dans un liquide de conservation et conservées dans l'azote liquide à moins 196 degrés, parfois dans des zones où la plupart des habitants vivent de chasse et de cueillette, des modes de vie qui altèrent assez peu le microbiote humain.
Quand on compare le microbiote intestinal des quelques populations de chasseurs-cueilleurs avec lesquelles on a travaillé, c'est effectivement ces individus-là qui montrent la plus grande diversité bactérienne dans leurs intestins.
Lorsque vous arrivez dans le village du chasseur, là, qui vous a donné l'arc qui est dans votre bureau, Mathilde, comment ça se passe ?
Ça dépend vraiment des cultures. Il y a des endroits où c'est totalement tabou. Je me souviens notamment avec des populations batek en Malaisie où c'était totalement tabou de ramener les échantillons de sel dans le village parce qu'ils ont pour habitude d'aller en forêt pour faire ce qu'ils ont à faire, mais certainement pas de ramener leurs excréments dans le village. Du coup, il a fallu aller à la recherche des échantillons dans la forêt. Ouais, ça a été un challenge qu'on n'avait pas eu ailleurs, ça, c'était marrant. À l'extrême opposé, je me souviens d'un village au Rwanda où j'explique qu'il va me falloir des échantillons de sel pour analyser les microbiotes intestinaux. Je disais pas le mot, j'y allais doucement, j'essayais de ménager un petit peu tout le monde. Et en fait, ça les a fait mourir de rire de se rendre compte que je prenais autant de pincettes. Et c'est déjà rigolo de voir un blanc avec des gants en latex qui joue avec du caca à l'arrière d'une voiture. Ça fait beaucoup. Et j'avais eu 30 échantillons en une heure et demie. Tout le monde avait été capable de me produire un échantillon de sel à la demande. Donc voilà, c'est drôle de croiser toutes ces cultures avec des sensibilités différentes. C'est vraiment très différent d'un pays ou d'une population à l'autre.
Bon, j'avoue qu'au départ, j'étais assez désarçonnée par tous ces kits de collecte et par l'idée même d'envoyer mes selles au bout du monde. Mais j'avais quand même envie de savoir si j'ai vraiment un microbiote français, malgré mes aventures et mes séjours loin des villes occidentales. Alors Mathilde, c'est la première fois qu'avant de faire une interview, j'envoie mes matières fécales. Donc je vous ai envoyé il y a quelques mois un échantillon. Est-ce qu'on peut éventuellement comparer les résultats? Parce que je me demande quand même à quoi je ressemble.
Et à quel autre individu à travers le monde vous ressemblez le plus en termes de microbiome intestinal? Est-ce que votre microbiome intestinal ressemble à ceux des autres Français ou est-ce que vous avez un microbiome intestinal qui ressemble à un pastoraliste du Rwanda? Okay. Alors, donc là, j'ai imprimé votre rapport, mais j'ai aussi imprimé, pour qu'on puisse comparer, le rapport d'un participant. C'est un chasseur-cueilleur de Tanzanie. Donc, dans votre échantillon, on a retrouvé près de 62% de firmicutes. Bah, ce qui est un peu rare, en vérité. Je découvre le rapport en même temps que vous. Ce qui est un petit peu rare dans un microbiote de quelqu'un qui vient à un style de vie industrialisé, qui sont plutôt, en général, dominés par les bacteroïdes. Okay. Donc, peut-être que vous mangez beaucoup de légumes, beaucoup de fibres, je ne sais pas.
Ou que j'ai voyagé.
Ou que vous ayez voyagé, oui, ça va dépendre de quel type de voyage.
Ou peut-être que j'ai mis les mains dans la terre de Tanzanie.
Ouais, peut-être. Peut-être que vous avez
mangé des trucs bizarres.
Vous, voilà, exactement. La première hypothèse, ça pourrait être, un régime alimentaire riche en fibres ou quelque chose comme ça. D'accord. Voilà.
Je suis assez fière, non ?
Bah oui, c'est bien.
Staphylococcus. Brevindomonas vesicularis, Mycelaginosa, Pseudomonas viridiflava.
Et si on regarde par exemple le participant qu'on avait ici en comparaison donc en Tanzanie.
Il vient d'une petite ville de Tanzanie, c'est
oui, ça ? Exactement, un village, un petit village. Il est vraiment bien, vraiment dans la diversité max. Il a des bactéries que vous n'avez pas, et en plus, il en a beaucoup plus de différentes.
On pourrait presque dire que sur le graphique qu'on voit là, donc dans la cohorte de tous les gens que vous avez analysés, et on voit que les populations occidentales sont complètement à gauche de votre tableau, on constate en fait en Occident une épidémie de l'absence, on pourrait dire ça, c'est-à-dire une épidémie de l'absence de la diversité, donc une épidémie de l'absence des bactéries, alors qu'à l'ère de Pasteur, on se serait plutôt réjoui de l'absence de bactéries. Et aujourd'hui, on est en train de constater avec dépit une épidémie de l'absence de bactéries.
Oui, c'est bien résumé. Effectivement, on a passé des décennies à chasser le micro-organisme. Et c'est potentiellement maintenant que c'est un petit peu tard qu'on se rend compte que cette diversité bactérienne est très importante. Et on fait face à de nouvelles épidémies, de nouvelles maladies qui ne sont pas liées aux bactéries elles-mêmes, mais justement potentiellement au manque de bactéries.
C'est des épidémies.
Et c'est quand même des épidémies. Aujourd'hui, ces nouvelles maladies, obésité, diabète, c'est les maladies cardiovasculaires, c'est la première cause de mortalité aujourd'hui dans le monde. Enfin, voilà. Donc c'est de nouvelles épidémies, des maladies graves auxquelles on fait face et qui sont fortement associées à cette baisse de la diversité bactérienne qu'on observe. Nous, on a publié il y a 2 ans une étude qui montrait que les bactéries, elles échangent encore plus de gènes quand elles sont dans l'intestin d'un individu au style de vie industrialisé. Est-ce que c'est en réponse à une perturbation liée au style de vie industrialisé que les bactéries ont besoin de s'adapter, d'échanger des gènes pour rester, pour coloniser l'intestin? Donc, c'est des questions qui sont toujours ouvertes, mais c'est des choses qu'on observe.
C'est-à-dire, pardon, qu'elles échangent plus vite et plus.
Et plus, voilà, exactement. Surtout plus. À une autre échelle et d'une autre manière, les styles de vie qu'on a choisis sont catastrophiques pour l'équilibre des écosystèmes et des autres êtres humains aussi.
Et d'une certaine façon, après avoir colonisé ces pays dans lesquels vous êtes allés, le Cameroun, la Tanzanie, aujourd'hui, le monde occidental essaye d'aller puiser d'autres ressources qui sont celles du microbiote, c'est-à-dire les bactéries. C'est-à-dire qu'après avoir puisé les sous-sols, on va essayer d'y chercher les bactéries d'une certaine manière. C'est un peu paradoxal.
Oui, et j'espère vraiment que c'est pas... Enfin, c'est vraiment ce qu'on ne veut pas faire, cette forme de néo colonialisme scientifique. J'espère vraiment avec ce projet-là qu'on ne perpétue pas ces mauvaises pratiques et que parce que il faut ben, c'est-à-dire que l'idée c'est pas effectivement d'aller chercher ces bactéries que nous on n'a plus au Cameroun, en Tanzanie, au Ghana. L'idée n'est pas d'aller chercher les bactéries pour sauver les populations industrialisées, mais vraiment pour avoir une vision d'ensemble et proposer des solutions thérapeutiques qui conviennent au plus grand nombre. Aussi de collaborer avec des collaborateurs locaux pour aussi avancer la science du microbiome localement, parce que même si aujourd'hui on a l'impression que toutes ces nouvelles maladies, obésité, diabète, maladies cardiovasculaires, sont principalement dans les pays les plus industrialisés, ça se développe aussi très largement dans les capitales africaines notamment. Ça devient aussi endémique là-bas et très vite, ils pourront aussi profiter des avancées scientifiques de ce projet, je l'espère.
C'est bien situé ici, le jardin est devant. Vous savez, le jardin, ça me fait penser à notre microbiote. On a plusieurs centaines d'espèces ici, c'est autant que nos espèces dans l'intestin. La richesse, la diversité des jardins, c'est comme un bon microbiote qui vous garde en bonne santé.
Et Stanislav Duchko-Erlich, est-ce que vous diriez que, quelque part, notre caca, se plonger dans nos excréments, a permis à l'être humain et à l'espèce humaine d'en savoir un peu plus sur d'où on vient et peut-être même où on va?
Philosophiquement, on pourrait réfléchir sur comment l'examen de caca nous permet de mieux comprendre comment accomplir notre destinée. Le réservoir des non-microbes, ça c'est l'humanité.
Plonger dans notre caca nous apprend à accepter l'autre, qui soit en nous, invisible, mais aussi qui vienne d'ailleurs.
En tant que scientifique, je suis assez attaché à des faits. Les faits me disent qu'en effet, être en contact avec les gens qui viennent d'ailleurs peut m'être bénéfique. Peut être surtout bénéfique aux gens qui ont perdu cette diversité de monde microbien qu'ils enferment. Nous échangeons nos microbes quand nous constatons que la diversité chez un individu est perdu, ce n'est pas juste. Moi, malheureux, c'est nous qui vivons dans cette communauté qui, collectivement, perdons la richesse. Et comment la restaurer? Il faut approcher ces microbes utiles et qui les porte? D'autres humains. D'où viennent-ils? Des contrées différentes. Et on sait bien, on voit bien, que les espèces microbiennes, qui sont peut-être rares ou absentes dans les pays industrialisés, qui ont été perdues pendant les générations, peuvent être retrouvées dans les populations qui ne vivaient pas dans ce genre de conditions, avec les antibiotiques excessifs, avec l'hygiène très poussée, avec une alimentation peu diversifiée. Ça existe. L'immigration peut nous exposer à ces réservoirs de microbes et aider à restaurer nos microbes à une richesse et donc nous aider à préserver notre santé. L'immigration, c'est une bénédiction.
Merci à François-Joseph Lapointe, à Joël Doré, à Marine et à toute l'équipe de l'INRAE. Merci au professeur Pascal Cossard de l'Académie des sciences, au professeur Marc-André Solos du Muséum d'histoire naturelle à Paris, à Dushko Erlich, à Mathilde Poyer du Global Microbiome Conservancy. Merci à toute l'équipe du service de gynécologie obstétrique de la Salpêtrière, au professeur Jacqueline Isard et Marc Domergue, à Souleyman et à ses parents. Merci à notre excellent stagiaire Adrien Cléiette. Prise de son, Michael Simon, Olivier Leroux et Timothée Hubert. Mixage, Manon Houssin. Documentation, Annelise Signoret. Archivina, Mylène Touchet. Chargée de programme, Marie-Vonna Bolivier et Anaï Morales. Coordination, Joanna Bedeau. Microbiote, tous en selle. Épisode 1, géographies intimes de nos microbes. Un documentaire d'Élodie Maillot, réalisé par Véronique Samouiloff. À suivre, Microbiote tous en selle, épisode 2, les selles de la vie.